juste, je lui donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tous et à toutes. Permettez-moi d'entamer mon propos en remerciant l'État parti d'avoir accepté de participer à ce dialogue constructif. Un dialogue qui nous permettra de nous faire une idée de la façon dont les droits de l'homme sont réalisés en Géorgie. Je suis certain que cet examen ira dans l'intérêt des droits de l'homme, mais aussi des concitoyens de la Géorgie, puisque celle-ci a adhéré au pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'ailleurs c'est un instrument que nous nous efforçons tous de faire appliquer. J'aurais deux questions à vous adresser. Elles portent sur les points 12 et 13 de la liste. Voici ma première question. Elle porte sur la privation de liberté. Plus concrètement, j'aimerais aborder dans un premier temps la détention administrative. D'après ce que nous savons, en Géorgie, la détention administrative est réglementée par un code de 1984. Lorsque vous nous avez transmis vos réponses à la liste des points en novembre 2020, le Parlement géorgien envisageait justement de modifier cette législation sans pour autant supprimer la mention détention administrative. Alors, pourriez-vous nous informer de l'état d'avancement de ce processus? Où en est le Parlement là-dessus? Et comment entendez-vous réglementer des questions de base et plus concrètement des problématiques liées à la détention administrative, comme par exemple sa durée ou encore la charge de la preuve? Si je pose la question, c'est parce qu'en vertu de du régime établi, eh bien, c'est au détenu qu'incombe la charge de la preuve, ou en cas de pourvoi, c'est à celui-ci qu'incombe donc charge de la preuve si une décision de placement en détention administrative est prise. D'après ce que nous savons, les agents de police fournissent des conseils aux détenus, aux personnes placées en détention administrative, parce que selon eux, voilà, ils n'ont pas besoin d'un avocat et que l'aide juridictionnelle, ça risque de leur coûter très cher. Alors, j'aimerais que vous m'éclairiez. Est-ce qu'il y a moyen de savoir ce qu'il se passe à partir du moment où une personne demande l'aide d'un avocat et à quel moment l'avocat en question entre en ligne de compte? Avez-vous des documents attestant de cette réalité? D'après les informations qui sont parvenues à notre connaissance, en 2019, 1802 personnes avaient été détenues pour infraction administrative. Alors, l'État parti pourrait-il nous donner des informations sur le nombre de placements en détention administrative pour les années 2020 et 2021, respectivement? J'en viens maintenant donc à ma deuxième sous-question pour le premier point, qui porte sur les conditions de détention, donc toujours dans le contexte de la privation de liberté. Dans vos réponses, vous nous signalez avoir élaboré un nouveau formulaire répondant au préalable du protocole d'Istanbul concernant les mauvais traitements infligés aux détenus. Et vous nous dites que toute plainte remonte au service central de l'inspection. Alors, pourrait-on savoir combien de dossiers ont été déposés auprès de ce service? Combien de plaintes ont donné effet à des inculpations? Y a-t-il eu des poursuites en justice? Et combien de poursuites ont-elles donné à des condamnations? Dans vos réponses, vous n'informez pas le comité eu égard à deux points qui nous paraissent être les plus pertinents. Premièrement, les mesures adoptées pour réduire l'incidence de violence entre codétenus, ainsi que les prétendues donc hiérarchies qui existeraient entre les codétenus. Entre autres, il semblerait que des problèmes de santé mentale que pourraient avoir les détenus ne sont absolument pas traités comme il se doit parce qu'il y a une pénurie grave de personnel médical, psychiatrique et autres, donc du personnel spécialisé. J'aimerais en savoir davantage là-dessus, car cela me paraît être un grave problème. J'en viens maintenant au point 13, qui porte sur la lutte contre le trafic de drogue. En réponse aux questions de la liste, en réponse